nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachés à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Dans cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Jean Foyer. Monsieur Foyer, bonjour.
Bonjour, madame.
Après avoir lu sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques la notice de carrière qui vous concerne, je me permettrai de la résumer si vous voulez bien, parce que on voit que votre carrière a été très longue et très bien remplie. Et bien sûr, votre carrière est liée au droit. Vous êtes en effet docteur en droit, monsieur Foyer, agrégé de droit, diplômé de l'Académie de droit international de La Haye. En tout cas, c'est le droit qui vous a permis, j'ai l'impression, de mener plusieurs vies en une seule vie. Alors, vous avez commencé votre carrière comme conseiller technique dans plusieurs ministères. Vous avez été conseiller technique même au cabinet de M. Oumfouette-Boigny, de 58 à 59. Et vous avez mené une carrière politique à la fois sur le terrain, en étant député du Maine-et-Loire, maire, et vous avez exercé beaucoup de fonctions comme conseiller général aussi. Vous avez mené une carrière politique dans différents gouvernements, disons des années 58 à 81. Vous voyez, ça fait largement quand même de nombreuses années. Vous avez occupé plusieurs fonctions de secrétaire d'État, plusieurs fois ministre. Vous avez été garde des Sceaux. Et je vous l'avais dit que je résumerai votre carrière, car aujourd'hui, nous allons parler non pas de votre carrière officielle, ça n'est pas l'objet de notre entretien de ce jour, mais d'une passion qui vous habite, une passion que connaissent vos amis, vos proches et vos confrères de l'Académie des sciences morales et politiques, c'est le chant grégorien. Alors, monsieur Foyer, on a tout de suite envie de vous demander, comment avez-vous découvert le chant grégorien ?
Vous me demandez comment j'ai découvert le chant grégorien ? Oui, le chant grégorien... Je me définis quelquefois par rapport au chant grégorien en disant que je suis un vieux chantre en chômage technique. C'est une profession qui, je dois le dire, a été de ma part toujours absolument gratuite, mais je l'ai exercée pendant très longtemps et je l'ai exercée toujours avec un très grand plaisir. Alors, comment j'ai commencé à faire du chant grégorien ? Eh bien, j'ai commencé à faire du chant grégorien de très bonne heure. Je suis né dans un village de campagne, j'ai été élève à l'école primaire de cette école de campagne, et dans mon jeune âge, j'ai été enfant de chœur. Et le dimanche après-midi, le curé de cette humble paroisse nous faisait chanter, nous étions 6 enfants de chœur, nous faisait chanter les vêpres, chanter les psaumes en alternant avec le chantre. Alors, c'est comme ça que je me suis mis à pratiquer le chant grégorien, alors que je savais à peine lire à ce moment-là. Et puis, par la suite, j'ai été élève dans un collège d'Angers pendant 7 ans. Et là, le chant grégorien, j'ai eu l'occasion de le pratiquer parce qu'il y avait beaucoup d'exercices religieux. Rien que le dimanche, on chantait la grand-messe à 10h, on chantait les vêpres l'après-midi et on chantait complis après dîner. Alors, par la suite, le chant grégorien m'ayant toujours... je ne dirais, le mot « intéressé » est un peu faible, eh bien, j'ai continué à l'étudier d'une manière un peu plus scientifique, un peu plus poussée, ce que j'ai pu faire assez facilement, parce que mon pays natal est à 20 km de l'abbaye de Solesmes,
voilà,
qui est le centre du chant grégorien en France,
on va en parler,
et peut-être même dans le monde. Et lorsque, dans mon village, le vieux chantre, devenu très vieux, a commencé à s'essouffler quelque peu, bien, toutes les fois que j'étais dans mon village le dimanche, le curé de la paroisse me demandait d'occuper le lutrin et c'était moi qui chantais les chants de la grand-messe. Alors, j'ai continué à faire ça pendant longtemps et puis est arrivé ensuite, d'abord que j'ai pu moins le faire parce que j'avais des occupations, des fonctions qui me retenaient beaucoup à Paris. Et puis, on a cessé de chanter le chant grégorien parce que le chant grégorien est un chant latin. Et alors, je n'ai pu, à partir de ce moment-là, chanter le chant grégorien dans mon village natal, et j'ai généralement été le chanter en adhérant au chœur grégorien de Paris. Voilà mes liens avec
voilà.
Le chant grégorien.
Mais alors, vous oubliez de dire, peut-être que la nature aussi vous avait gratifié d'une voix. Et faut-il avoir une voix particulière pour chanter le chant grégorien ?
Oh, vous savez, il n'y a pas, quand même pas besoin d'avoir des voix exceptionnelles, parce que vous avez des quantités de personnes qui chantent le chant grégorien qui ne seraient pas toutes capables d'être des chanteurs d'opéra. Vous en avez en particulier dans les monastères, des moines et des religieuses qui chantent tous les jours du chant grégorien, qui n'ont pas toutes des voix qui sont vraiment extraordinaires. Je ne sais pas ce que vaut la mienne. J'en suis pas juge. Enfin, je crois que j'ai exécuté ce chant assez convenablement toutes les fois que j'ai eu l'occasion de le chanter.
Alors, Jean Foyer, on dit chant grégorien, mais on dit aussi chant romain ou plein chant. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient le mot grégorien ? On sait que ça vient du pape Grégoire, mais un petit peu d'histoire, ça nous ferait tout de même, ça nous remettrait les idées en place. Bon, chant romain et le plein chant.
Bon, eh bien, le chant, ce qu'on appelle le chant grégorien, c'est un chant liturgique. Il est constitué de pièces, de psaumes, d'hymnes et autres, qui sont chantés pendant la messe ou pendant l'office liturgique. Alors, ce chant en latin, a commencé à se développer à partir du moment où l'Église a commencé à faire sa liturgie en latin. Parce qu'au début, elle ne l'a pas faite en latin. Elle s'est servie de langues orientales et elle s'est servie du grec. D'ailleurs, le monde romain s'est beaucoup servi du grec, à peu près jusqu'au IVe siècle. Et alors, à partir du IVe siècle, l'Église catholique en Occident utilise un chant qui va devenir, qu'on va appeler à partir d'un moment, le chant grégorien. Mais ce chant, vous avez une première période dans laquelle vous avez eu une assez grande diversité de chants liturgiques latins, assez différents souvent les uns des autres. Vous avez eu un chant romain.
Oui.
Et un premier chant romain qu'on appelle d'ordinaire le vieux romain. Vous avez eu un chant bénéventin. Vous avez eu un chant milanais qu'on appelle ambrosien parce qu'il y a un certain nombre de pièces qui sont l'œuvre de l'évêque de Milan, saint Ambroise. Vous avez eu un chant hispanique et vous avez eu des chants de l'Église des Gaules.
Donc chacun avait un peu son chant vers le 4e, 5e siècle, selon les régions.
Alors, tout le monde ne chantait pas les mêmes pièces aux mêmes dates, etc. Il y avait une assez grande diversité, à la fois dans le choix des pièces qui étaient chantées et d'autre part dans la musique. Et alors, un beau jour, à partir d'un certain moment, il s'est produit une unification.
Mais qui a été voulu par le pape Grégoire ou...
Non, même encore avant. Le pape Grégoire, je vais y revenir tout à l'heure, n'a pas eu un rôle musical considérable. Le pape Grégoire a eu un rôle liturgique. Il a promulgué un missel pour dire la messe. Oui. Mais en matière de chant, on ne sait pas très bien quel rôle il a pu jouer. Mais à un certain moment, alors j'arrive à mon idée d'unification... L'unification du chant liturgique latin a été voulue par les premiers carolingiens, en particulier par Charlemagne.
Ah,
et c'était une de ses idées. Il a voulu unifier son empire et il a voulu qu'on célébrât la liturgie partout en utilisant les mêmes chants chantés de la même manière. Ce qui a amené... Alors, jusqu'à ce moment-là, on utilisait dans les Gaules un chant qu'on appelait le chant gallican. Et Charlemagne a fait venir de Rome des chantres qui chantaient de chants vieux romains. Et c'est de cette façon constituée une espèce de synthèse, de symbiose du chant vieux romain et du chant gallican, qui n'ont pas d'ailleurs fait disparaître tous les autres chants, parce qu'il y en a d'autres qui ont subsisté. Ils subsistent pour partie encore, tels que le chant ambrosien à Milan ou des chants espagnols. Et alors ce chant de synthèse, ce produit de synthèse, pour le faire assimiler, accepter plus facilement, on a eu l'idée de l'appeler chant grégorien et de dire qu'il était dû originairement au pape Grégoire le Grand, qui a régné de 590 à 604 et qui avait une très grande notoriété dans le monde du haut Moyen-Âge.
Voilà, de la fin, on est tout à fait à la fin du VIe siècle.
Le chant grégorien, c'est la fin du 8e et le début du 9e siècle.
Tous les autres chants
s'étaient développés pendant ce temps-là.
Donc on a attribué ça à Grégoire.
Finalement, ce chant attribué au pape Grégoire s'est finalement imposé à tout le monde. Mais on ne l'a pas, pendant une longue partie, un certain nombre de siècles, on ne l'appelait pas chant grégorien, on l'appelait plutôt plein chant.
Alors, plein chant, on dit seulement pour nos auditeurs étrangers, car nous en avons beaucoup sur Canal Académie, oui, que ça ne s'écrit pas P-L-E-I-N, mais P-L-A-I-N. Oui. Alors, Jean Foyer, pourquoi? Parce que ça vient du latin.
L'identité, l'égalité du son premier, des choses comme celle-là, donner un chant qui
aplanit les...
Qui n'avait pas de caractère excessif, si vous voulez.
Voilà, c'est ça. Qui n'est pas non plus un chant recto-tonneau, mais enfin tout de même.
Non, c'est autre chose. Mais d'ailleurs, l'histoire du plein chant, si vous vouliez que nous la continuions, ce plein chant grégorien a commencé à se détériorer au XVIe siècle.
Alors avant de parler du XVIe siècle, Jean Foyer, si on écoutait un petit morceau de chant grégorien.
Ah, ben alors si vous voulez, il faudrait qu'on prenne un chant aussi ancien que possible. On va en prendre un chant qui soit simple et qui est une pièce qui n'est pas tout à fait grégorienne, qui est ambrosienne.
Ah.
C'est un Gloria in excelsis Deo emprunté à la liturgie ambrosienne. Vous le trouvez dans cet ouvrage à la page 15 du côté gauche.
Jean Foyer, c'était donc un chant ambrosien de la tradition plutôt de Saint-Ambroise. Revenons plutôt à Saint-Grégoire. Donc vous nous disiez qu'au fond, il avait eu peu de rôle musical, mais un grand rôle dans l'unité de l'Église. Et c'est surtout à partir du IXe siècle que ce chant s'est répandu un peu partout en Occident.
Par la volonté de Charlemagne.
Par la volonté de Charlemagne.
Alors le chant grégorien, on parlera tout à l'heure, si vous voulez, de la notation et de choses comme celle-là. Mais on peut dire que ce... tel qu'il est, n'est pas un chant d'origine romaine, il est né dans la partie nord-est de la France, dans l'Austrasie carolingienne.
Alors, vous nous disiez aussi qu'à partir du XVIe siècle, les choses allaient se gâter.
Alors,
pourquoi ?
Évidemment, il a beaucoup évolué au cours des temps, parce qu'on a ajouté des compositions nouvelles qui ne sont pas tout à fait du même style, j'allais même dire du même goût que les plus anciennes. Mais au XVIe siècle, le chant grégorien va connaître de grands malheurs. Il va connaître de grands malheurs par le fait des humanistes. Alors les humanistes vont lui adresser des reproches, beaucoup de reproches, par exemple, le reproche de ne pas tenir un compte suffisant de l'accentuation des mots romains et de mettre des mélismes sur des syllabes qui ne sont pas accentuées. Tout à l'heure, dans l'exemple du Gloria ambrosien, c'est tout à fait évident, il y a des syllabes qui portent un mélisme qui ne sont pas accentués, c'est la dernière syllabe d'un mot, par exemple. et que d'autre part, on va trouver que certaines de ces mélodies sont tout de même trop longues, et puis d'autre part, eh bien, qu'elles ne sont pas tout à fait dans le goût du jour, parce que les chants grégoriens sont construits selon des modalités qui ne sont pas conformes à la modalité des compositions de la musique classique. Et alors, on va faire des bricolages, des modifications, ajouter des si bémols, etc., etc. Et on va l'amputer, enfin, on va le faire subir une trituration qui est vraiment une opération chirurgicale tout à fait criminelle. Mais néanmoins, ça va devenir un chant officiel. Parce qu'au XVIe siècle, cette modification, cette prétendue réforme du chant grégorien va être faite par des musiciens romains qui sont commandés, investis par le pape, et ce qu'ils ont abouti à faire va être l'objet d'une édition officielle, et ça va devenir le chant officiel de l'Église romaine.
Voilà.
Mais il va y avoir encore beaucoup d'autres modifications, parce qu'en France, au début du XVIIIe siècle, l'épiscopat gallican va, dans la plupart des diocèses, substituer à la liturgie romaine une liturgie que l'on appelle néo-gallicane, et pour laquelle on va composer des mélodies qui sont conformes à la nouvelle mode grégorienne, mais qui sont pour la plupart pas extraordinaires.
Bon.
Et ce chant néo-gallican va rester en usage en France jusqu'au milieu du XIXe siècle, et ce sont les efforts de Don Guéranger à Bethsalem qui vont aboutir à un retour de toute l'Église de France au chant grégorien.
Alors, on va marquer juste une petite pause, Jean Foyer. On va écouter un deuxième morceau et après, vous allez nous parler de Don Guéranger.
On va prendre le graduel d'Irrigatu.
Alors ça, on le trouve quelle page ?
Page 22.
Après ce graduel que nous venons d'écouter, revenons avec Jean Foyer. Vous nous parliez d'un réformateur qui, en vérité, est revenu aux sources et aux origines du grégorien. C'est Don Guéranger qui était donc, je suppose, le prieur de l'abbaye de Solesmes.
Don Guéranger est le premier abbé de l'abbaye de Solesmes. C'est lui qui a restauré le monastère de Solesmes, qui avait été sous l'ancienne France un petit monastère, un petit prieuré. Et dans les années 1830, Don Guéranger, qui était un prêtre du diocèse du Mans, qui était né à Sablé-sur-Sarthe, a eu l'idée de refonder un monastère à Solesmes. Et l'une des grandes idées de Don Guéranger, soucieux d'unité liturgique en Occident, a été de déterminer les diocèses de France à revenir au chant grégorien et à abandonner la liturgie néo-gallicane. Alors, il a très largement réussi. Mais il s'est aperçu bien rapidement que le chant grégorien qu'il avait restauré était un chant grégorien qui était très impur et qu'on a essayé de le reconstituer tel qu'il avait été à la belle période. C'est un travail qui a été plus que séculaire et qui a été essentiellement l'œuvre des moines de Solesmes qui sont allés à la recherche des manuscrits, anciens,
oui,
qui les ont photographiés, qui ont réuni les photographies, qui les ont publiées dans la collection qui s'appelle la paléographie musicale. Et ils ont essayé de reconstituer les chants grégoriens dans leur teneur primitive.
Il y a beaucoup de manuscrits où on trouve des chants grégoriens.
Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce qu'on a quand même pratiqué le chant grégorien, pas seulement en France, mais dans toute l'Europe occidentale. Mais la lecture n'en est pas toujours très facile parce que pendant très longtemps, les livres de chants n'ont pas été notés. Alors à cette époque-là, il fallait faire apprendre les mélodies par cœur par les chantres. Ça demandait plusieurs années de former un chantre.
C'est une tradition orale, alors. Ben,
tradition orale. Puis dans un deuxième temps, pour leur faciliter l'existence, et notamment l'expression, on a adopté une première notation qu'on a appelée la notation pneumatique.
Avec des neumes, c'est ça.
Alors ces neumes, ce sont des signes que vous trouvez dans les éditions modernes. Ce sont des signes qui sont pour la plupart empruntés à la grammaire. C'est des accents grammaticaux, des signes grammaticaux, des accents circonflexes, des accents graves, des accents aigus, des tirés, etc. Et c'est avec ça, ces signes-là combinés les uns avec les autres, c'est avec ça qu'on fait les neumes. Et alors les neumes, dans un premier temps, ne vous indiquent pas la hauteur de la note, mais vous indiquent la manière de la chanter, l'expression. Il y a des signes d'allongement, des signes, au contraire, d'accélération. C'est une lecture qui est, quand on connaît la mélodie, qui est très commode pour l'exécuter, ça vous indique comment il faudrait chanter.
C'est le comment faire.
Chaque syllabe. Et puis, alors, est arrivée une nouvelle étape qui a été l'invention de la portée par un moine d'Arezzo, qui s'appelle Guy d'Arezzo, qui a introduit une portée. On a d'abord utilisé une ligne, et puis plusieurs lignes, et finalement, on a pris l'habitude de noter le chant grégorien sur quatre lignes.
Quatre lignes, mais pas avec la clé habituelle. On a plusieurs clés.
On utilise plusieurs clés.
Alors, quelles clés?
Bon. On utilise tout d'abord la clé de Do, la clé d'Ut.
Ut.
Et on la désigne par la lettre qui a servi à désigner les notes de la gamme avant que l'on utilise des syllabes qui sont empruntés à l'hymne des Vêpres de Saint Jean-Baptiste. Alors, précédemment, mais les Allemands le font encore de nos jours, on désignait les notes par les lettres A, B, C, D, E, F, G. Alors, A, c'était la lettre La. B, c'était la lettre Si.
C'est codé, tout ça est un code, alors.
La note Do, Ut, c'était la note C. Alors, vous avez la note Ré, c'était D. La note Mi, c'était E. La note Fa, c'était F, et la note Sol, G. Alors, aujourd'hui, on utilise encore un peu ces signes-là, parce que la clé de Sol, dans la musique moderne, c'est un G. C'est originairement un G. Le chant grégorien a utilisé une autre manière de dénommer les notes, parce qu'il s'est trouvé que les premiers mots de l'hymne des Vêpres de Saint-Jean-Baptiste, chaque membre de phrase commence sur une note différente de la gamme. Alors on commence « Ut, qui ant laxis, resonare fibris, mira gestorum » et ainsi de suite. Bon. À partir du jour où on a utilisé la portée, alors là on a des textes, d'abord manuscrits puis ensuite surtout imprimés, qui sont évidemment beaucoup plus clairs et plus commodes. Alors, ce travail de restauration du chant grégorien dans sa teneur primitive, j'allais dire dans sa pureté primitive, a été continué, surtout d'ailleurs par les moines de Solesmes, mais pas par eux seuls. Et on a étudié le chant grégorien de la manière de plus en plus scientifique. Ce qui a déjà amené certains résultats, c'est qu'au début du XXe siècle, le Saint-Siège à promulguer une addition authentique des chants de la messe et des chants de l'office, qui tient compte des principales modifications, restitutions qui avaient été proposées à ce moment-là, mais qui n'avaient pas encore atteint la perfection. Et ce travail de restauration a encore continué, et continue tout le temps. Et alors, dans l'année 2005 encore, on a les antiennes des chants de l'office, selon le rite monastique, ont été publiées. Enfin, il y a un travail de remise en état.
Se fait toujours.
C'est toujours difficile. Alors, je dois dire que dans ce travail de restitution du chant liturgique, vous avez deux personnes dont je crois qu'il est honnête de citer le nom, parce qu'elles ont joué un rôle absolument déterminant. C'est d'une part, pour l'interprétation des neumes, c'est l'œuvre faite par un moine qui s'appelait Don Cardine,
oui,
qui était un moine de Solesmes, mais qui a été longtemps détaché à l'Institut pontifical de musique sacrée. Et lui, alors, il a écrit de savants ouvrages sur l'interprétation de ces signes pneumatiques. Et c'est la science de ces signes, il l'a appelé la séméiologie grégorienne, la science des signes grégoriens. Bon, vous avez toute une littérature là-dessus, d'excellents ouvrages, notamment un ouvrage qui a été publié, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, par un auteur français qui s'appelle Madame Guébé-Guermont. Et puis l'autre personnalité qui a eu un rôle décisif dans l'étude scientifique du chant grégorien, c'est le précédent maître de chœur de Solesmes, dont Jean Clerc, qui est mort il y a 10 jours.
Eh bien, c'est une occasion de célébrer sa mémoire. Voulez-vous que nous écoutions un troisième morceau de grégorien en mémoire du travail et de ce qu'a fait cette personnalité dont vous nous parlez?
Bon, eh bien, on va vous en faire entendre. À la page 17, l'offertoire Ave Maria.
Après ce magnifique Ave Maria, Jean Foyer, est-ce que vous considérez que l'on peut faire des concerts de chant grégorien ou est-ce que le chant grégorien doit être réservé à la prière ?
Ben écoutez, on fait les deux choses. On fait des concerts de chant grégorien et je crois qu'il est utile qu'on en fasse parce que c'est une manière de le faire connaître à des personnes qui n'en entendent plus chanter, étant donné que depuis la réforme liturgique de Vatican II, bien que celui-ci ait déclaré que le chant grégorien était le chant propre de l'Église latine et qu'il devait occuper la première place, toute chose égale d'ailleurs, il a à peu près à partout disparu. Alors pour le faire connaître, il est utile de faire des concerts de chant grégorien et il y a certaines chorales qui sont d'excellentes chorales qui donnent de temps en temps des concerts ici ou là.
Mais ce sont des chorales avec des voix d'hommes uniquement ? Au départ, c'était que des voix d'hommes, le chant grégorien.
Pas seulement, parce que les moniales chantent également.
Mais là, il n'y a que des femmes, alors.
Ben oui.
Mais est-ce que ça se mélange, hommes et femmes, dans le grégorien ?
Ça peut se mélanger ou ça peut alterner. Mais vous avez à l'heure actuelle, par exemple, le chœur grégorien de Paris a deux éléments. Il y a un chœur d'hommes et puis un chœur de femmes. Qui chantent d'ailleurs remarquablement. Le chœur de femmes est d'excellente qualité. Ce sont d'ailleurs elles qui ont donné les chants que vous allez faire entendre là maintenant. C'est d'elles. Alors, évidemment, c'est une manière de le faire connaître. Mais enfin, il faudrait tout de même souhaiter que le chant grégorien continue à remplir la fonction pour laquelle il a été fait. Parce que le chant grégorien, c'est un chant liturgique, c'est-à-dire un chant de prière. Il est donc fait pour être chanté à l'église, il est fait pour être chanté à la messe, il est fait pour être chanté dans les offices.
Dans quelle église, si nos auditeurs avaient envie d'y aller à Paris ?
Il se chante dans plusieurs églises. En général, les hommes du chœur grégorien de Paris chantent la grand-messe à 9h dans l'église du Val-de-Grâce.
Oui.
Quant au chœur féminin, il chante, lui, tout près de l'endroit où nous sommes, il chante le soir la messe à 7h à Saint-Germain-l'Auxerrois.
Ah, c'est de l'autre côté de la Seine. Et M. Foyer
alors,
me fait le geste que c'est de l'autre côté.
Vous avez maintenant, dans d'autres églises de Paris, des chœurs grégoriens qui sont de bonne qualité. Il y a un excellent chœur grégorien à Notre-Dame de Paris, qui est comme chef de chœur M. Dieudonné. Et puis, vous avez un certain nombre d'églises de Paris où vous avez au moins une messe chantée en latin le dimanche. Vous en avez une à Saint-Germain-l'Auxerrois, je l'ai dit, à Saint-Pierre-de-Chaillot. Vous en avez une à Notre-Dame-d'Auteuil. Enfin, je ne les connais pas tous, mais vous avez un certain nombre. Et puis, surtout, il y a encore quelques monastères qui conservent le chant grégorien et qui le chantent très bien. Et je crois que la palme revenant à l'abbaye de Solesmes.
Merci Jean Foyer de nous avoir fait partager votre passion pour le chant grégorien. On peut dire que vous êtes véritablement, au sens latin du mot, un amateur, un homme qui aime et qui fait partager sa passion. Merci beaucoup et j'espère que nous aurons une autre occasion de vous entendre sur ce sujet.
Eh bien, je serai toujours avec plaisir à votre disposition pour en parler.
Merci, à bientôt.